de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Enshorah. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et mis bas de toi ton fardeau qui écrasait ton dos et élever haut pour toi ta renommée? Oui, car à côté de la difficulté est une facilité. Quand tu es libre donc, lève-toi et aspire à ton Seigneur.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes jeudi 26 mai 1403 du calendrier iranien, 17 octobre 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Le corps des gardiens de la révolution islamique appelle les nations et les États musulmans à se soulever contre le régime sioniste. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré son homologue égyptien au Caire. 7 militaires israéliens ont été tués et des dizaines d'autres blessés lors d'affrontements avec le Hezbollah. Et au Yémen, Sana'a a été frappée pour la première fois par des bombardiers B-2 des États-Unis. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en déplacement au Caire, a rencontré son homologue égyptien, Badr Abdelhati, avec qui il a procédé à des échanges de vues sur les questions et développements régionaux les plus importants. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu ce mercredi 16 octobre en Jordanie, où il s'est entretenu avec son homologue jordanien et le roi Abdallah II des développements en Asie de l'Ouest et des efforts visant à mettre fin aux crimes du régime sioniste à Gaza et au Liban. Auparavant, le diplomate iranien s'était rendu au Liban, en Syrie, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Irak et à Oman, dans le cadre des consultations régionales sur les dernières évolutions à Gaza et au Liban et les efforts déployés pour mettre fin aux crimes du régime sioniste. Abbas Araghchi se déplacera le vendredi 18 octobre à Istanbul pour participer à la réunion de la plateforme régionale 3 plus 3. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Aziz Nasirzadeh, a minimisé le déploiement du système américain de défense antimissile à haute altitude, TAD, en Palestine occupée. Il a déclaré qu'il fait partie d'une guerre psychologique, indiquant que le TAD est un système antimissile balistique. Le général Nasirzadeh a affirmé que son déploiement n'était rien de nouveau. Nous considérons que de telles mesures de l'ennemi relèvent d'une guerre psychologique. Il n'y a pas de problème spécifique, a-t-il affirmé, avant d'ajouter qu'aucune des menaces proférées par le régime sioniste n'est nouvelle. Dans le cadre de leur dernière série d'aides militaires au régime d'occupation israélien, les États-Unis ont envoyé à Israël leur système de défense antimissile TAD, accompagné de dizaines de soldats et de membres d'équipage, pour le faire fonctionner. Au moins 7 membres de la brigade Golani de l'armée israélienne ont été tués mercredi lors d'affrontements avec les combattants du Hezbollah à la frontière sud du Liban avec la Palestine occupée. Les médias israéliens ont reconnu que 7 de leurs militaires avaient péri lors des affrontements qui ont eu lieu mercredi 16 octobre près des villages frontaliers libanais d'Aïta al-Shab et de Ramia. Des dizaines d'autres militaires ont été blessés, dont 17 grièvement lors de la confrontation qui a suivi une embuscade du Hezbollah, ont ajouté les médias israéliens dans un contexte de censure stricte imposé autour de l'incident par l'armée israélienne. Plus tôt, Des rapports indiquaient qu'au moins 49 soldats blessés avaient été évacués vers les hôpitaux des territoires occupés palestiniens à la suite de l'incident. Dans le cadre de ces opérations de soutien aux peuples libanais et palestiniens, la résistance islamique en Irak a lancé ce jeudi à l'aube une attaque de drone contre une cible vitale dans la ville d'Eilat, en Palestine occupée. La résistance islamique irakienne a confirmé avoir lancé une frappe de drone contre une cible israélienne vitale au centre de la Palestine occupée, indiquant que l'opération avait été menée par un drone doté de capacités avancées. La frappe intervient en soutien au peuple palestinien et libanais et en réponse au massacre des civils innocents, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées, perpétrés par le régime sioniste, a indiqué le groupe de résistance irakien. Et enfin, des avions de guerre américains et britanniques ont bombardé la capitale du Yémen, Sanaa, et plusieurs autres zones sur fond de la solidarité du pays arabe avec les Palestiniens de la bande de Gaza assiégée et la nation libanaise face à l'agression brutale du régime israélien. La chaîne de télévision yéménite Al-Masira a déclaré que la coalition américano-britannique avait ciblé les régions d'Al-Hafa et de Jirban au nord et au sud de la capitale avec 6 frappes aériennes ce jeudi 17 octobre dans la matinée. L'armée américaine a utilisé des bombardiers furtifs B-2 pour la première fois frappe aérienne contre le Yémen, a déclaré la chaîne de télévision yéménite. Le corps des gardiens de la révolution islamique a appelé toutes les nations et tous les États musulmans à travers le monde à se lever aux côtés de l'Iran contre Israël et à utiliser tous les moyens nécessaires pour mettre fin à l'oppression incessante du peuple palestinien. À l'occasion du premier anniversaire du massacre par Israël des Palestiniens réfugiés à l'hôpital Mamdani, dans la bande de Gaza assiégée, le corps des gardiens de la révolution islamique a publié ce mercredi 16 octobre un communiqué. Nous attendons de toutes les nations musulmanes et de tous les gouvernements islamiques qu'ils se lèvent aux côtés de la grande nation iranienne et des combattants de la résistance islamique dans un front uni contre le régime sioniste, a déclaré le corps des gardiens de la révolution islamique. Le corps des gardiens de la révolution islamique a exhorté les musulmans à remplir leur rôle et leur mission historique envers la Palestine. Le 17 octobre 2023, Israël a lancé une frappe aérienne sur l'hôpital Mamdani, également connu sous le nom d'hôpital Al-Ahli Arabe, faisant plus de 500 morts parmi les civils. De nombreuses personnes s'y réfugiaient pour échapper au bombardement impitoyable du régime israélien qui ont frappé le territoire sous blocus pendant une dizaine de jours. Un an après le bombardement de l'hôpital Mamdani à Gaza, par le régime diabolique et féroce d'Israël, qui a fait des centaines de morts et de blessés parmi les innocents qui cherchaient refuge et soins dans ce centre médical, le souvenir de ce crime horrible suscite la tristesse et le regret de l'humanité tout entière. Le massacre à l'hôpital a suscité une indignation mondiale et une vague de condamnations afflue à l'échelle mondiale contre le régime de Tel Aviv. Après avoir enduré l'humiliation et la honte d'une défaite historique lors de l'opération Tempête d'Al-Aqsa, le régime illégitime et sanguinaire a bombardé brutalement l'hôpital Mamdani en fabriquant de fausses allégations concernant les activités du Hamas et de la puissante et inébranlable résistance islamique dans les hôpitaux et les centres médicaux. Cette atrocité a encore une fois mis en évidence l'indifférence et l'inaction des organisations internationales de défense des droits de l'homme à l'égard de leurs devoirs fondamentaux. Et aujourd'hui, sous l'ombre de cette indifférence et de ce silence de marbre, l'humanité est témoin des actes effrénés et de la sauvagerie des sionistes non seulement à Gaza, mais aussi au Liban, a déclaré le corps des gardiens de la révolution islamique dans son communiqué. Selon le ministère libanais de la Santé, Israël a tué plus de 2300 personnes et en a blessé près de 11 000 au Liban depuis octobre 2023. À Gaza aussi, la guerre génocidaire menée par le régime sioniste a coûté la vie à plus de 42 200 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants. Le régime diabolique d'Israël a tué plus de 500 médecins, infirmières et patients lors du bombardement de l'hôpital Mamdani à Gaza. Depuis lors, il a ciblé 141 hôpitaux à Gaza, 4 hôpitaux au Liban et un hôpital appartenant au Croissant Rouge de la République islamique d'Iran à la frontière syro-libanaise, peut-on lire dans le communiqué. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré qu'il ne faisait aucun doute que le crime d'attaquer des hôpitaux remplis de femmes, d'enfants, de blessés et de patients innocents a été un tache noire dans le bilan des crimes contre l'humanité perpétrés par le régime sioniste et que la honte générée par le régime sioniste et ses alliés restera à jamais dans l'histoire de l'humanité. Les alliés de ce régime dépravé, en particulier les États-Unis, qui encouragent et facilitent les massacres de masse à Gaza et au Liban par le déploiement de forces militaires, la fourniture de diverses armes mortelles et le soutien politique, sécuritaire et de renseignement sont considérés comme complices et partenaires de ces crimes et doivent être tenus responsables devant les tribunaux compétents ainsi que devant la conscience humaine et l'histoire. Le corps des gardiens de la révolution islamique souligne la nécessité de former un front international pour sortir les institutions et organisations des droits de l'homme de l'inaction en ce qui concerne la condamnation et la punition des criminels responsables de ces événements tragiques et inhumains. Le corps des gardiens de la révolution islamique reconnaît comme indéniable le droit légitime du peuple palestinien opprimé et souffrant à l'autodétermination et à la libération de l'oppression des occupants. Il n'hésitera pas à apporter un soutien ferme à la résistance islamique.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. Nous avons consacré le débat d'aujourd'hui aux dernières révolutions israélo-palestiniennes et israélo-libanaises. Également, on va surtout se focaliser sur cette attaque du mouvement de la résistance libanaise, Hezbollah, sur la base militaire de Golani à Haïfa. Voilà, c'était une attaque très très importante du point de vue de son genre depuis le début de la guerre. On va s'intéresser à ce sujet. Et avant de saluer nos deux experts, je vous propose un point en images. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite après.
Le mouvement de résistance libanaise Hezbollah a mené une attaque de drone contre un site militaire israélien, faisant 4 morts et des dizaines de blessés parmi les soldats du régime sioniste. Le Hezbollah revendiquait dimanche avoir tiré un escadron de drones d'attaque sur un camp d'entraînement israélien dans le nord de la Palestine occupée. Le service médical d'urgence israélien a confirmé qu'au moins 4 soldats israéliens avaient été tués et au moins 67 autres blessés dans l'attaque de drones contre la base militaire de la brigade Golani à Binyamina, située dans le sud de Haïfa. Selon des médias indépendants, plus d'une centaine de sionistes ont été blessés dans l'attaque. Au moins 7 des soldats israéliens blessés se trouvaient dans un état critique selon les sources. La brigade Golani fait partie de l'une des 5 brigades d'infanterie de l'armée israélienne. D'autres attaques à la roquette et au drone ont eu lieu sur les sites militaires israéliens. Il s'agit notamment d'un centre de réhabilitation de maintenance au sud de Haïfa qui a été ciblé par un barrage de roquettes et d'une base logistique dans les hauteurs du Golan occupé. Les combattants de la résistance du Hezbollah ont également tiré des obus d'artillerie sur les troupes israéliennes qui s'efforçait de s'infiltrer dans le sud du Liban, à proximité du village frontalier de Markaba. Le Hezbollah réitérait que ces opérations étaient une réponse aux attaques du régime sioniste, notamment aux frappes aériennes contre les quartiers de Basta et Neviri, situés dans le centre, qui ont tué 22 personnes jeudi et qu'elle avait été lancée en soutien palestinien de Gaza. Pour les commentateurs, le Hezbollah libanais est entré dans une nouvelle phase de la bataille après la mort en martyr de son secrétaire général Sayed Hassan Nasrallah, dont la nature et les caractéristiques conduiront à modifier les règles du conflit et les rapports de force dans l'ensemble de la région.
Voilà, pour en parler, je suis heureuse d'accueillir Jean-Maxime Corneille, expert en intelligence économique, qui s'intéresse aux sujets stratégiques. Bonjour, Monsieur Jean-Maxime Corneille, ravi de vous retrouver.
Merci à vous, c'est un plaisir également. Merci pour votre invitation.
Également, Monsieur Bernard Cournou, spécialiste au Moyen-Orient et expert en énergie. Tous deux nous rejoignent depuis la France. Ravi de vous retrouver. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation, Monsieur Cournou.
Merci à vous, à toutes et à tous, et à M. Maxime Corneille.
Oui, merci également aux auditeurs et aux téléspectateurs d'avoir répondu présent à ce débat. Tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. S'il vous plaît, avec vous, M. Cournou, l'attaque par drone du Hezbollah libanais contre la brigade Golani à Haïfa a constitué la pire nuit, je cite, pour l'armée d'occupation du régime sioniste. L'armée israélienne a également admis que l'attaque la plus meurtrière du Hezbollah s'est produite depuis le début de la guerre. Voilà, le bilan était très important. Le bilan des morts et des blessés d'Israël s'élevait à des dizaines de morts et de blessés. Dites-nous, s'il vous plaît, d'après vous, pourquoi cette attaque du Hezbollah contre la brigade Golani à Haïfa est-elle importante pour les deux parties?
Cette riposte du Hezbollah insiste qu'il vise toujours des cibles militaires ou de renseignements militaires. Importante parce qu'elle montre que le Hezbollah n'a pas perdu ses capacités On indique aussi que le Hezbollah garde des capacités pour les utiliser de plus en plus fort aux mesures effectivement des attaques israéliennes les plus étendues, les plus fortes sur tout le Liban. Et effectivement, elle a aussi annoncé des ripostes qui ont eu lieu aujourd'hui avec de très nombreux bombardements, enfin cette nuit, sur Nabatieh où un maire a été tué. Ça veut dire
Monsieur Cournou, il y a, pardonnez-moi, il y a un souci du son. On va essayer de le résoudre. À vous, s'il vous plaît, cher Jean-Maxime Corneille, s'il vous plaît, comment réagissez-vous à cette attaque et pourquoi c'est importante cette attaque? Après, surtout, la mort en martyr de Seyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais.
Bien sûr, bien sûr. C'est énorme, surtout parce que les Golanis sont une unité, si ce n'est l'unité d'élite par excellence de Tsahal. C'est l'unité pour laquelle, depuis la guerre de Kippour, on fait des chansons merveilleuses, les Golanis sont toujours sur la brèche, etc. Ce que l'on dit peu, c'est que les Golanis se sont fait déjà sévèrement étriller à Gaza, d'après ce que j'ai pu entendre. Et là, nous avons vraiment une réponse très intéressante, une réponse qui est, d'un point de vue du droit international, qui est justement crédible. C'est-à-dire que nous avons, d'un côté, des populations civiles qui sont ciblées d'une façon tellement grossière, tellement illégitime, d'un point de vue du droit international, à l'occasion des frappes israéliennes, que nous voyons bien que Israël, c'est vraiment la technique mondialiste, en fait. Peu importe les moyens, seul justifie la fin. Mais ces loulous n'ont pas compris, ces gens n'ont pas compris depuis l'Antiquité qu'ils refont toujours la même erreur. Ils s'autodétruisent toujours à partir de leur suprémacisme qui est intenable. Intenable. 200 ans avant Jésus-Christ, ou 150 ans, ou 100 ans, les conseillers du roi Antiochos IV racontaient comment le suprémacisme, l'essence du judaïsme, en fait, devait être considérée comme la haine du genre humain parce que c'était un suprémacisme qui considérait tout ce qui n'était pas juif comme une nation secondaire, enfin comme des sous-peuples, en fait. Et ça, c'est véritablement problématique parce que dans l'emplacement, par rapport à l'emplacement stratégique d'Israël, de la Judée de l'époque comme d'Israël aujourd'hui, à la confluence de tous les mondes différents, si tous les voisins savent qu'il existe un petit peuple qui considère que tous les autres sont inférieurs, il ne faut pas s'étonner à un moment qu'il y ait une sanction militaire, en fait. C'est inévitable. Et c'est ce même problème qu'Israël affronte aujourd'hui, et surtout avec des religieux fanatiques qui envoient des soldats mourir en leur nom, mais qui ne s'aperçoivent pas que, au contraire, les soldats, depuis la guerre de Liban, il y a eu des serviteurs d'Israël, des serviteurs israéliens, de l'État israélien, qui ont compris ces choses-là. Typiquement, Meir Dagan, Tamir Pardo, les gens qui voulaient arrêter cette logique de va-t-en-guerre, parce qu'ils avaient compris sa limite au Liban dès 1982. Ce sont ces gens qui ne sont pas écoutés, et au contraire, ce sont les héritiers du révisionnisme sioniste qui sont en train de suicider Israël de la même façon que la Judée romaine se suicida à l'époque, par le même type de fanatisme clérical. Le problème n'est même pas tant du sionisme que du cléricalisme, mais l'aboutissement, c'est un risque d'autodestruction d'Israël, ce que justement Hassan Nasrallah avait voulu éviter. Nous avons tué, Israël a tué, non pas le soi-disant vilain méchant terroriste en chef tel que le disent nos médias occidentaux embrayant à la suite des médias israéliens, mais au contraire un Nasrallah qui voulait trouver des terrains d'entente face à des gens qui sont en train de suicider Israël. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Donc voilà pour ma première prise de parole ici, c'est très important, je pense.
Voilà, nous avons entendu la réaction de Jean-Maxime Corneille et on va aller plus loin avec vous. Comment réagissez-vous, Bernard Cournou? Vous êtes toujours avec nous, j'espère.
Oui, j'ai mis un casque pour...
Voilà, à vous. C'est à vous.
Jean-Maxime a tout à fait raison de rappeler ces fondements idéologiques d'une partie des dirigeants actuels d'Israël qui sont révisionnistes, qui sont M. Netanyahou, son père était le secrétaire de Jabotinsky, des gens qui étaient des sionistes très durs, qui n'avaient que du mépris pour l'environnement, qui voulaient faire partir le maximum de l'arabe palestinien de cette terre qu'ils convoitaient. Et donc c'est effectivement une sorte de suicide que commet ce gouvernement et cette armée israélienne de poursuivre des combats sans aucune discrimination, comme d'ailleurs l'a souligné Le président Macron, dans un communiqué de l'Élysée, comme il l'a dit hier au Premier ministre Netanyahou. Donc, cette attitude grave amenait aussi d'ailleurs une association française à déposer un dossier à la Cour pénale internationale pour dire que notre président, son Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, étaient complices des crimes de guerre, des crimes de génocide en cours et des crimes contre l'humanité menés par l'armée israélienne, ses services de renseignement et son gouvernement, à la tête, disons, M. Netanyahou. Et donc, toute cette aggravation des malheurs de la région est très importante, mais peut-être que cela fait réagir depuis quelques jours l'ensemble de la communauté européenne et le président Macron qui s'est exprimé en condamnant toutes les attaques récentes, y compris au Liban et aussi à Gaza. Ce mot est nouveau. Je pense qu'il est important que nos dirigeants prennent conscience de leurs erreurs passées, de leur complicité avec l'État israélien, de leur soutien qui était inconditionnel ou presque, et se mettent à le condamner. Je pense que ceci doit aller aux Nations Unies. Et effectivement, cette attaque récente a un peu perturbé l'armée israélienne parce que les drones n'ont pas été détectés, les sirènes ne sont pas déclenchées. Cela montre au public israélien qu'il y a aussi des failles dans le système de surveillance et de sécurité israélien. Et M. Macron a répété que seul un accord de paix juste, définitif, pourrait amener la sécurité à toutes les parties.
Merci Bernard. On va continuer encore et aller plus loin avec vous, Jean-Maxime. Alors, à chaque fois que l'armée sioniste israélienne vise des cibles avec des pertes humaines, des femmes, des enfants, destruction des maisons, des installations civiles, alors la partie israélienne commence à se réjouir, ils fêtent, ils célèbrent, les Israéliens s'obilent cette soi-disant victoire. Ça me fait rappeler cette attaque contre la base Golani. M'a fait rappeler de déclarations du martyr Seyyed Hassan Nasrallah qui a dit que vous pouvez rire pour un petit moment, mais vous allez pleurer longtemps et longtemps. Donc, comment réagissez-vous à ce bilan? Est-ce que c'est seulement sur le plan militaire ou bien c'est une nouvelle phase dans la stratégie de la résistance de post-Nasrallah?
Bien, c'est l'application du fait que je pense que tant Israël que le Liban, que le Hezbollah ont parfaitement compris de toute façon depuis des années que par définition, lorsqu'il y a des dirigeants d'un mouvement, ils sont les premiers ciblés. C'est la raison pour laquelle des redondances sont évidemment prévues et que Israël fonctionne sur une logique occidentale il fonctionne sur une logique occidentale concernant le rêve d'une frappe de décapitation qui permettrait la facilitation d'une opération militaire au sol, etc. Mais faites l'analogie avec la Seconde Guerre mondiale. Les nazis voulaient faire pareil avec Tukhachevski puis la Russie. C'était une mauvaise compréhension des choses parce qu'en fait, les armées traditionnalistes allemandes et russes étaient prêtes à s'entendre. En fait, l'internationalisme financier a voulu une destruction des deux armées pour préserver de part et d'autre, des gens très subversifs, très négatifs, les mêmes qui sont à la tête d'Israël aujourd'hui globalement. Il y a une analogie là-dessus. Nous avons là un échec totalement prévisible d'une stratégie jusqu'au boutiste israélienne poussée par la partie la plus subversive et fanatique de la communauté juive américaine qui ne craint pas de sacrifier Israël pour augmenter son pouvoir aux États-Unis. Ça, c'est ce que ne disent pas les médias occidentaux, mais c'est ce que disent les véritables juifs intelligents, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou en Israël. Et ce sont ces gens-là qui rêvent d'un Israël toujours plus militarisé, en fait, qui aboutit à ce qu'Israël se fasse toujours plus détester, et également avec la complicité des chrétiens évangéliques américains qui ne sont pas très malins, en fait, qui sont vraiment dans cette logique de messianisme partagé dans lequel tant les juifs que les juifs messianiques que les chrétiens évangéliques ils jouent pour le pire en fait. Ils veulent déclencher le pire et c'est quelque chose d'extraordinairement malsain. Donc voilà la situation que nous avons face à nous, et face à cela, l'axe de la résistance, de fait, s'est adapté pour que, de toute façon, la pression soit tellement forte qu'Israël soit obligé de revoir ses plans. Mais à ce jeu-là, ça va être pire que de revoir ses plans, surtout à l'époque du feu nucléaire, parce que nous avons vraiment des acteurs en réalité bien plus rationnels du côté de l'axe de la résistance que du côté du révisionnisme sioniste qui menace de suicider Israël de toutes les façons possibles et potentiellement de déclencher un holocauste nucléaire au Moyen-Orient. Donc on a vraiment cette logique de guerre sans fin, en fait. De guerre sans fin, mais jusqu'au pire. Voilà.
Voilà, jouer pour le pire, alors ça donne à réfléchir vraiment, Jean-Maxime. À vous, s'il vous plaît, Bernard Cournou. L'attaque par drone du Hezbollah libanais contre le quartier général de la brigade Golani à Haïfa, le port stratégique de Haïfa, n'est pas seulement une opération militaire aux dimensions importantes, mais indique pour beaucoup de commentateurs et analystes un changement plus important dans la stratégie du Hezbollah dans la guerre contre le régime sioniste. Il s'agit d'une nouvelle phase qu'il faut prendre au sérieux.
Oui, tout à fait, parce que, comme j'ai dit, il est très clair que l'Hezbollah garde des réserves de plus en plus puissantes pour sa défense du territoire libanais et pour répondre aux attaques israéliennes. Et en visant aussi les services de renseignement, tous ceux qui font aussi les logiciels israéliens pour suivre les gens à partir de leur téléphone portable et à partir d'algorithmes très obscurs, mais qui déterminent des cibles et qui fait que beaucoup de civils sont morts dans toutes ces attaques et qu'il y a souvent des erreurs de ciblage. Donc tout ceci doit être dénoncé. Et c'est bien que le Hezbollah ait bien confirmé qu'il vise essentiellement des cibles militaires. D'ailleurs, c'est la même chose que l'Iran a dit au cas où il y aurait une riposte. Il vise, et dans ses ripostes récentes, il a visé exclusivement des cibles militaires. La situation s'empire, effectivement, et comme le disait le philosophe Hölderlin au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe, là où croit le pire, croit aussi ce qui sauve. Et finalement, ce risque important qui risquerait de toucher l'Europe fait que les dirigeants européens commencent à se réunir, et aujourd'hui ils se réunissent d'ailleurs avec les dirigeants du Moyen-Orient pour essayer d'explorer les solutions qui pourraient être présentées au Conseil de sécurité pour trouver des solutions durables, justes et réalistes à ce très vieux conflit qui date du début du siècle. Du XXe siècle.
Oui, tout à fait. Jean-Maxime Corneille, alors l'objectif du Hezbollah était toujours d'arrêter la machine de guerre israélienne contre la population de Gaza. C'est pourquoi le Hezbollah a ouvert un nouveau front. Alors, sur cette base de la convention de génocide, nous assistons à des tentatives de génocide. Comment parlent les experts juridiques internationaux et judiciaires? Alors, le Hezbollah a tenté de réduire l'intensité des attaques israéliennes contre la bande de Gaza en unissant des fronts de la résistance. Et en face, Israël cherche à diviser les fronts pour alors mieux pousser cette machine de guerre.
Alors, c'est vrai, et ce qui est intéressant, c'est que nous avons une inversion accusatoire totale. J'ai vu ça sur les médias français, c'est Georges Bensoussan qui nous explique que la stratégie de l'Iran, c'est d'épuiser Israël. Non, non, Israël s'épuise tout seul, en fait. Israël est en train de recréer exactement ce qu'ils n'ont jamais compris de leur histoire. Ce sont eux qui cherchent, dans une stratégie jusqu'au boutiste délirante, qui ne tient que dans l'esprit des ultra-religieux fanatiques, mais qui militairement ne tient pas. C'est la même problématique que la guerre du Liban dans les années 80. C'est-à-dire que eux prétendent qu'ils sont attaqués de partout. Non, ils ont créé les problèmes partout et ils s'étonnent ensuite que s'ils ne tentent ensuite une incursion, un nettoyage ethnique, une épuration ethnique totale de Gaza, ils s'étonnent que ça marche difficilement parce que le combat urbain, c'est vieux comme Stalingrad. Le feu tue, disait le maréchal Pétain. Et donc, on nous explique là que Israël est très menacé par tout le monde. Non, Israël a créé une surpression sur ses voisins, et ses voisins ont répondu par un enserrement d'Israël, à raison, puisque c'est la grande règle du droit international. Il y a la diplomatie et il y a le sort des armes. C'est le sort des armes qui commande la diplomatie et non l'inverse. on est diplomate que quand on a la capacité à être fort, et quand un État se pêche par excès de militarisme, cela lui revient toujours, c'est le karma des nations, cela lui revient toujours dans sa face. Et c'est vraiment ce que l'on voit. Et d'ailleurs, l'histoire de France également, nous avons eu des époques comme ça dans l'histoire de France, sous Louis XIV, sous Napoléon. Mais tous les États connaissent ce genre d'excès. Par contre, les seuls qui n'apprennent pas, parce qu'ils sont basés sur une religion suprémaciste et qui commandent d'épurer ethniquement tous les goyims, il n'y a que cette version fanatique du judaïsme qui est de toute façon vouée à disparaître. Mais ça fait 2000 ans qu'ils devraient l'avoir compris. Et pourquoi ne l'ont-ils pas compris? C'est parce que le véritable problème, ce n'est même pas le sionisme, c'est du cléricalisme. Le clergé réécrit toujours l'histoire du judaïsme pour expliquer que ce n'était jamais de sa faute, après coup, après les guerres déclenchées par son fanatisme. Donc voilà la raison pour laquelle il faut avoir une certaine méfiance face, par exemple, moi, à des juifs qui me contactent pour me dire « dites très fort que Israël n'est pas un État juif ». Si, Israël est un État juif, il est basé sur le suprémacisme du judaïsme, duquel les réformistes juifs ont toujours voulu faire sortir le judaïsme. Et Hillel a été massacré par les zélotes. C'est le même problème. Les fanatiques qui détournent l'État vers son autodestruction. Je pense que c'est ce à quoi de nouveau nous assistons, mais c'est face à cela le sort des armes, le pragmatisme militaire et le réalisme surtout d'opérateurs qui, l'Iran, le Liban, la Syrie, ce sont de très vieilles cultures moyen-orientales, plus vieilles que le judaïsme, pour qui veut bien le comprendre. Malheureusement, le judaïsme a du mal à apprendre. C'est une décadence historiquement, le judaïsme, une décadence cléricale. C'est bien, bien problématique, mais voilà, la sagesse va se retrouver par le sort des armes.
Merci. À vous, s'il vous plaît, Bernard Cornu. Alors, au nom du droit international et des résolutions onusiennes, Hezbollah a toujours cherché la mise en œuvre totale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui insiste sur le retrait d'Israël des frontières libanaises. Donc, comment réagissez-vous face aux dernières évolutions et nouvelles options qui s'ouvrent dans cette guerre qui s'est approchée à une guerre d'usure contre Israël?
Oui, toutes les parties avaient accepté cette résolution 17-1 de 2006, du mois d'août. Et récemment, d'ailleurs, le Premier ministre libanais a dit qu'il était prêt à augmenter le contingent militaire.
Nous avons deux minutes devant nous, Bernard Cornu, oui. 2 minutes devant nous, s'il vous plaît.
Oui, le Premier ministre libanais, par intérim, M. Mikati, a dit qu'il était prêt à augmenter son contingent militaire entre le Litanie et la ligne bleue. Il faudrait effectivement qu'Israël se retire. Pour compléter ce qu'a dit M. Cornet, je voudrais rappeler un ancien dirigeant israélien a dit une fois, j'ai entendu, je l'ai lu, que l'État israélien était derrière la plupart des guerres du Moyen-Orient. C'est parce qu'ils ont fait partir des Juifs des pays arabes qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient manipuler les opinions publiques, infiltrer un peu partout au Moyen-Orient pour créer des subversions et provoquer des guerres, organiser des trafics, des contrebandes pour financer des mouvements extrémistes dans certains pays. Donc voilà, ceci est très grave, ceci est connu des historiens, mais pas connu du grand public, ni connu de notre président Macron. Il est temps que les dirigeants aient des vues beaucoup plus réalistes, plus précises de l'histoire.
Merci infiniment Bernard Cornu, analyste politique spécialiste au Moyen-Orient. Merci également à vous, Jean-Maxime Corneille, qui s'intéresse au sujet stratégique et qui était avec nous depuis la France. Merci à vous, amis téléspectateurs et amis auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'ici. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle édition du débat.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 41 à 56 du chapitre 56 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Varia, l'événement. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 41 à 46 de la Sainte Sourate Al-Varia, l'événement. Puis nous vous en donnerons la traduction.
La بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe. Ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme. Dans nos précédents programmes, nous avons lu des versets de la Sainte Sourate Al-Varia, l'événement, qui nous ont dit que les gens seront divisés en trois groupes le jour de la résurrection. Les deux premiers groupes étaient bénis en raison de leurs bons actes. Ici, ces versets nous parlent des gens du troisième groupe, celui des condamnés. Les versets disent « Ceux qui reçoivent le livre de leurs actes dans leur main gauche sont les gens de l'enfer ». Et il n'y a pas de plus grande calamité que de devenir des gens de l'enfer. Contrairement aux gens du paradis qui profitent d'un air très doux et agréable à côté des cascades, des sources et des ruisseaux pleins d'eau et à l'ombre de grands et beaux arbres, les gens de l'enfer sont affectés par l'épaisse fumée qui s'élève du ciel. Ils auront le feu et l'eau brûlante qui, au lieu d'étancher la soif, l'augmente. Pourquoi seront-ils condamnés à l'enfer? Ils étaient orgueilleux et fiers de leur richesse, de leur situation sociale et de leur position dans ce bas monde. Ils n'écoutaient donc pas les paroles des prophètes et des livres saints. Par conséquent, ils considéraient la laideur comme la beauté et ne s'abstenaient pas des grands péchés. Ces versets du Noble Coran nous apprennent que l'immense prospérité et le plaisir qui amènent l'homme à oublier Dieu et le jour de la résurrection apportent un mauvais sort pour l'homme et le conduisent à la destruction et à la misère. L'orgueil est à l'origine des péchés. Voici maintenant les versets 47 à 50 de la sourate Al-Varia, l'événement.
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.
Et il disait, quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos anciens ancêtres. Dit, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Une autre raison pour laquelle ce groupe va en enfer est qu'ils se moquaient des paroles des prophètes concernant le jour du jugement dernier. Il disait, « Comment est-il possible que nos pères et nos ancêtres soient ressuscités ? Leur chair, leur peau et leurs os se sont transformés en poussière et sont dispersés en différents endroits. Comment pourront-ils revenir à la vie ? » Le Coran dit, « Cela est facile pour Dieu ». Et cette promesse divine s'accomplira. Ces versets du noble Coran nous apprennent que les mécréants et les gens qui rejettent la résurrection n'ont pas de raison logique et claire pour rejeter la possibilité de la résurrection. Certaines personnes essaient de répandre leurs doutes sur la résurrection et d'égarer les autres. Le devoir des croyants est donc de donner des réponses claires et raisonnées à de tels doutes. Écoutons enfin les versets 51 à 56 de la sourate 56 du noble Coran.
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.
Et puis vous les égarés qui traitiez la résurrection de mensonge. Vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum. Vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. Ces versets disent que, contrairement aux gens du paradis, qui profitent de toutes les délices du paradis, les gens de l'enfer mangent inévitablement des fruits amers et malodorants pour remplir leur estomac. Mais cela leur donne de la douleur et augmente leur souffrance. Et quand ils ont soif, ils boivent de l'eau brûlante de l'enfer. Leur entraille brûle, mais leur soif n'est pas étanchée. C'est une punition sévère pour les égarés qui avaient compris la vérité, mais qui n'étaient pas disposés à l'accepter à cause de leur entêtement et leur orgueil. Ces versets du noble Coran nous apprennent que de nombreuses personnes comptent parmi les égarés, mais finissent, en fin de compte, par trouver le chemin du salut. Dieu est juste et ne fait de tort à personne. En fait, les tourments et les souffrances que subissent les gens de l'enfer sont les résultats de leurs propres actes et de leurs péchés dans ce bas monde. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 56 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Varia, l'événement. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.